Spirituel aujourd'hui, il sera question de Bartolomé de Las Casas. C'est vraiment l'un des personnages les plus extraordinaires de l'histoire de toutes les Amériques. Malheureusement, je vous en ai parlé il y a 2 ans, ça avait beaucoup intéressé. C'est vraiment un homme qui est vénéré par les Amérindiens, évêque du Chiapas, comme Monseigneur Rubis aujourd'hui qui est évêque du Chiapas, défenseur des droits des Amérindiens. Un homme d'une envergure telle qu'il s'est rendu jusqu'à son roi en Espagne pour défendre les droits des Indiens, à temps et à contre-temps, avec parfois une violence qui est surprenante. Lui qui avait, au début de sa vie, été propriétaire d'esclaves, mais il s'est converti un jour de la Pentecôte. C'est pourquoi je vous en parle aujourd'hui. De toute façon, il est mort à la fin de mai, je crois, à l'âge de 82 ans. Oui, nous allons fêter ainsi la Pentecôte, en faisant connaissance à nouveau, et j'espère avec plus encore d'à-propos, de ce fameux dominicain devenu évêque, un laïc converti un jour de la Pentecôte, Bartolomeo de Las Casas. Il me fait penser à Monseigneur Bello, prix Nobel, évêque du Timor oriental, qui actuellement défend à temps et à contre-temps les droits des catholiques du Timor oriental qui sont persécutés par les Indonésiens musulmans qui se sont emparés de leur pays. Je pense à Monseigneur Ruiz que je viens de mentionner, évêque du Chiapas au Mexique, qui se bat pour les droits des Amérindiens, toujours de cette région où ils sont très exploités. Monseigneur Romero qui a été assassiné, dont je vous ai déjà parlé, alors qu'il disait sa messe. Monseigneur Elder Camara, qui a failli être assassiné je ne sais combien de fois. Il m'en avait parlé, nous l'avions interviewé plusieurs fois à rencontre à la télévision de Radio-Canada. Et Monseigneur Vega aussi, que nous avons interviewé à rencontre à Radio-Canada. Et le cardinal Arns, ces personnages d'un courage évangélique extraordinaire. Et j'entendais tout à l'heure aux nouvelles que le curé de Carira, en Colombie, a été tué mardi à 66 ans. Il ne pouvait pas se taire, dit-il. Et c'est la guérilla qui l'a transpercé de 13 balles. Il y a moins d'une semaine, Bartolomé de Las Casas est un dominicain. Entre chez Dominicain tard, 38 ans, je crois. Et dans les manuels d'histoire, on sait bien que l'ordre des dominicains passe pour être l'ordre de l'Inquisition. Et pourtant, voilà un homme qui, avec bien d'autres dominicains, ont défendu les droits des pauvres. La fin du 15e siècle, 1492 en particulier, marque pour l'histoire européenne un curieux passage. C'est le passage du Moyen-Âge à la Renaissance, peut-on dire. C'est une autre conception du monde et de la vie et de l'homme. Et c'est vraiment riche en événements. Cette fin du 15e siècle, des années 1400, vont modifier profondément la vision du monde que les gens se font. Et parmi tous ces faits, évidemment que le plus stupéfiant reste l'arrivée le 12 octobre 1492 de Christophe Colomb dans un archipel d'îles jusque-là inconnues, les Antilles. Qui ignore ça, surtout que ça a été fêté. C'était le 500e anniversaire, il y a quelques années. L'Amérique entre alors dans l'univers des Européens, plus particulièrement des Espagnols et des Portugais, avec des peuples amérindiens, leurs empires, leurs religions. Puis, cette épouvantable guerre que j'appellerais une grande guerre de conquête, que les Espagnols vont entreprendre, c'est d'une tristesse effroyable. C'est la rencontre des peuples et des cultures. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi la rencontre avec l'Évangile. Ça peut nous aider à regarder ça d'un autre point de vue, parce que l'Évangile du Christ est quand même annoncé de façon absolument étonnante aux Amérindiens, mais aussi aux colons espagnols qui manquent de foi chrétienne véritable. Oh, ils ont des noms chrétiens. Ce sont en principe des catholiques, mais très loin de l'Évangile pour la plupart. Très loin de l'Évangile, mais ils seront convertis petit à petit, en bonne partie, par des hommes comme Bartolomeo de las Casas. Parce qu'ils rencontreront toutes les exigences du respect du prochain. Et lui-même en sera le résultat. Oui, pour l'Espagne, c'était 1492, la conclusion, si on peut dire, de la reconquête sur leur propre territoire, de leur territoire, n'est-ce pas? Comment ça? C'était la chute du dernier bastion, on peut dire, musulman, qui occupait le royaume de Grenade. Après 8 siècles d'occupation, les musulmans occupaient une partie de l'Espagne, de la péninsule ibérique, comme on dit, la péninsule de l'Espagne, depuis 800 ans, et s'avaient envahi avec les armes, s'étaient installés, suscitaient une civilisation intéressante quand même, mais ils n'étaient pas chez eux. Et les Espagnols en avaient marre, ils les ont chassés. Et le débarquement de Christophe Colomb la même année, donc, lui qui pense que ce sont les Indes hindous, là, qui le rejoignent par la route maritime de l'Occident, puis là, la colonisation, puis la soumission de ce qu'on appellera bientôt le Nouveau Monde. Tout ça, ça va être perçu comme une continuation de cette guerre menée sur le continent contre les infidèles musulmans. On les appelle les infidèles et eux nous appelaient les infidèles. Alors on se traitait de charmants noms, n'est-ce pas? Infidèles d'une part, infidèles de l'autre. C'était comme ça à l'époque. Personne ne semble se rendre compte quand même, du moins au cours des premières années de la conquête des Antilles et du Mexique, et du reste, le Pérou, etc., que les situations sont absolument différentes, parce que comment ça, en Espagne, on se battait contre un envahisseur, je viens de vous le dire, l'islam, mais aux Antilles, en tant qu'Européens, on a envahi des populations organisées qui vivaient jusqu'à un certain point en paix sur des terres qui leur appartiennent depuis toujours, mais qui sont soumises à une religion terrible où les sacrifices humains sont sans nombre. C'est à la fois une civilisation admirable et une civilisation terrible, mais ça arrive toujours. Nous sommes toujours les êtres humains un peu terribles. Malgré la prétention de la couronne d'Espagne d'être reconnue comme propriétaire légitime, on peut pas nier que le roi Ferdinand puis la reine Isabelle d'Espagne se sont considérés responsables quand même de l'évangélisation de ces nouvelles populations qui leur sont assujetties. Ça, il faut le reconnaître. Les rois catholiques, c'est comme ça qu'on les appelle, après avoir expulsé les musulmans, et après, chose regrettable sur plus d'un point de vue, avoir renvoyé les juifs de leur royaume d'Espagne, bien ces rois catholiques ont été soucieux d'envoyer des missionnaires, et certains de ces missionnaires étaient extraordinaires, et il y en avait des Français là-dedans, puis il y avait des qui venaient des pays nordiques même, des franciscains, des dominicains. Ils ont été envoyés dès le deuxième voyage de Colomb vers l'île Hispaniola, qui est aujourd'hui Saint-Domingue et Haïti. Hein, Hispaniola, c'est une île partagée entre deux peuples. Les Dominicains, comme on les appelle, c'est trop étrange, les habitants de Saint-Domingue. Il faut pas se tromper avec les Dominicains, les prêtres, ou les frères, et les Haïtiens. En octobre 1508, donc, 16 ans après la découverte de l'Amérique, tout juste après, donc, quinzaine d'années après le débarquement des premiers conquistadors, là, le maître général des frères prêcheurs, les Dominicains, demande à la province d'Espagne d'envoyer 15 frères de l'autre côté de l'océan, là, pour y fonder des couvents. Et pour y annoncer surtout la parole de Dieu. Et c'est durant l'été de 1510, deux ans plus tard, que s'embarquent les premiers religieux dominicains, avec à leur tête un homme remarquable, Pierre de Cordoue. Cordoue en Espagne. En mai 1511, ils sont au complet. Et à peine arrivés, ces frères dominicains, je les appelle les frères, ce sont des frères prêcheurs. Je vous ai dit ça plusieurs émissions, qu'on devrait appeler les dominicains des frères, de même que les franciscains. Des frères mineurs, des frères prêcheurs. Les frères dominicains sont effrayés à peine arrivés par le sort imposé aux Indiens qui sont décimés par la maladie, hein, parce qu'ils n'ont pas les anticorps pour lutter contre les maladies que nous portons sans en être affectés. Ils sont maltraités aussi, ce qui est effrayant, et même assassinés par les soldats. Ils sont réduits en esclavage par les nouveaux propriétaires. Alors on examine la situation, on délibère et surtout on prie. Et alors, par la prière, une alternative s'impose à eux. Être les aumôniers des conquistadors et les évangélisateurs et défenseurs des Indiens opprimés, puis transformer le cœur des conquistadors si c'est possible. Ils n'hésitent pas longtemps, puisqu'en décembre 1511, l'année suivante, ils mandatent un des frères dominicains, retenez le nom, Antonio Montesinos, un des plus grands personnage de cette époque, Antonio Montesinos. Il est engagé, lui, mandaté pour dénoncer, en chair, à tous les fidèles venus à la messe, j'ouvre les guillemets, leur cruauté et leur tyrannie contre les Indiens innocents. Et le prêcheur, ce dominicain, interpelle les aspirants. Il leur dit, de quelle autorité vous prévalez-vous pour faire la guerre sur leur propre terre à ces gens doux et pacifiques? Ne sont-ils pas des hommes comme vous? Ne devez-vous pas les aimer comme vous-même? À cause de ce que vous faites, il n'y aura pas de salut pour eux. Mais là, l'après-midi, même toute la ville exige le châtiment de ce frère prêcheur insolent. Comme quoi, c'est pas facile convertir le monde. Essayez de dire le véritable évangile à la foule. Vous serez ou pas écouté ou insulté. Pierre de Cordoue, le prieur du couvent, rétorque que ce que le frère Antonio Montesinos vient de prêcher représente l'opinion, la volonté puis l'accord unanime de toute la communauté. Alors, on se décide, puis on dit que le dimanche suivant, le frère Antonio Montesinos devra prêcher de nouveau pour s'en expliquer. Et de fait, il reprend avec toutes sortes de détails et de citations de la Bible les accusations puis les avertissements du dimanche précédent, et malgré tous les appels à l'autorité, les frères dominicains demeurent dans l'île. On veut les faire chasser. Ils sont réduits à la misère. Il faut attendre 2 ans pour que l'autorisation de voyager même leur soit donnée. Ils soient donnés à de nouveaux missionnaires dominicains. Ils sont très mal pris. Depuis ce jour-là et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire qu'une question reste posée en Amérique latine. 500 ans de conquête, ou bien 5 siècles d'évangélisation. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors Bartolomé de Las Casas, lui, il a 18 ans quand en 1502, puisqu'il est né en 1484 à Séville, il s'embarque pour l'île d'Hispaniola, dont je vous ai parlé, là, où sont les Haïtiens et les gens de Saint-Domingue, comme 9 ans plus tôt, il l'avait fait son père, d'ailleurs, son oncle aussi, qui était parti, eux, avec Christophe Colomb pour la 2e expédition vers les Indes occidentales. Et lui aussi, Bartholomé, il veut être colon. Et on ne peut pas douter de ses intentions, puisqu'il l'écrit lui-même, il dit... Il rapporte ça, c'est assez surprenant. « Avant qu'aucun de nous ne sautât à terre, quelques-uns des Espagnols accourus sur la plage nous annoncent. Les nouvelles sont bonnes, on a trouvé de l'or, et puis nous sommes en guerre avec ces Indiens, ce qui va nous permettre de faire beaucoup d'esclaves. Tout le monde en conclut que nous arrivons à un heureux moment. » Imaginez, c'était dans cet esprit-là. Épouvantable. Et à peine débarqué, on confie à Bartolomé de Las Casas un domaine à Concepción de la Vega. Tout va bien pour lui et pour sa fortune. Il ne traite pas trop mal les Indiens qu'il a reçus en partage. Il sait profiter de leur travail sans trop les épuiser à la tâche. Il n'est pas méchant, au fond. Mais il suit ce que les autres font. Il ne croit donc pas avoir grand-chose à se reprocher. Lorsqu'il entend, en 1511, le fameux sermon dont je vous ai parlé d'Antonio Montesinos, ce sermon fantastique d'un prophète, d'un vrai dominicain, d'un prêtre au cœur de feu, comme je vous dis de temps en temps, ces prêtres de cœur de, au cœur de feu que l'on assassine sur la terre actuellement, auxquels on reproche de prêcher l'Évangile. Faut pas prêcher l'Évangile, hein? Allons donc. Il faut prêcher l'Évangile, coûte que coûte. Bartholomé de Las Casas, propriétaire d'esclaves, entend donc ce fameux sermon du frère Antonio Montesinos, 1511, où il est dit « De quelle autorité vous préveliez-vous, vous prévalez-vous pour faire la guerre sur leur propre terre à des gens si doux et si pacifiques? À cause de ce que vous faites, il n'y aura pas de salut pour eux. » Alors, 3 ans plus tard, tout ça mûrit en lui, hein. C'est pas une conversion instantanée, c'est une conversion qui prend 3 ans. Le jour de la Pentecôte, il lit le chapitre 34 du livre de l'Ecclésiastique, où il est dit que c'est tuer son prochain que lui ôter sa subsistance et de ne pas lui payer un juste salaire. Alors, lui revient en mémoire, selon son propre témoignage, les sermons qu'il a entendus de la bouche des religieux dominicains, et en particulier de ce merveilleux dominicain Antonio Montesinos. Et il écrit « Je considérais l'ignorance dans laquelle j'avais vécu et le péril spirituel qu'il y avait à posséder des Indiens. Et là, j'ai décidé de renoncer aussitôt aux Indiens que je possédais. » Il se lie donc d'amitié avec le frère Pierre de Cordoue et le frère Antonio Montesinos. Et là, il retourne en Espagne avec le frère Antonio Montesinos pour plaider auprès du roi la cause des Indiens. C'est toute une audace. Il insiste en particulier sur l'absurdité du requerimiento, qui dénie toute liberté aux Indiens. Je vous en lis un passage, c'est à faire dresser les cheveux sur la tête, c'est une sommation qui est faite aux Indiens. Il est écrit là-dedans, « Je vous notifie et fais savoir, le mieux que je puis, que Dieu notre Seigneur, un et éternel, créa le ciel et la terre et un homme et une femme dont vous et nous et tous les peuples du monde sont les descendants. Alors, je vous prie donc, et je vous somme le mieux que je puis de bien comprendre ce que je vous dis et de prendre pour le comprendre et bien en délibérer le temps qui vous semblera nécessaire et de reconnaître l'Église comme maîtresse du monde entier et reconnaître en son nom le souverain pontife appelé pape et en ses lieux et places sa majesté comme souverain et seigneur de ces îles et de cette terre ferme en vertu de la donation qui lui a été faite par le pape, et que vous consentiez à ces religieux de vous proclamer et prêcher ce que je viens de vous dire, et que vous ne les empêchiez point. Si vous le faites, vous ferez bien. Vous ferez ce à quoi vous êtes tenu et obligé. Mais si vous ne le faites pas, attention. Et si vous allongez malicieusement les délais pour vous décider, en somme à vous convertir, je vous certifie qu'avec l'aide de Dieu, je vous envahirai puissamment et vous ferai la guerre de tous côtés et de toutes les façons dont je le pourrai, et je vous assujettirai au joug et à l'obéissance de l'Église et de leurs altesses. Je vous prendrai, vous, vos femmes et vos enfants, et vous réduirai à l'esclavage. C'est épouvantable. C'est criminel. C'est terrifiant. On peut penser à l'islam dans certains pays. Inconcevable. Alors le roi le raccorde donc à Bartholomé de Las Casas et Antonio Montesinos une audience. Il les renvoie à ses conseillers qui déclarent tout net que la nouvelle de la mort de ce mule enfant en 3 mois à Hispaniola, sur l'île d'Hispaniola, ne les concerne pas. Indifférence. C'est un peu comme aujourd'hui, on peut vous dire qu'il y a 28 000 enfants qui sont nés avant leur naissance au Québec, chaque année. Ça n'importe pas du tout. Personne n'est dérangé par ce crime épouvantable. C'est pareil. C'est toujours la même chose en 1999. Rien ne semble donc possible, mais le roi meurt subitement, puis le régent du royaume... Qui est-il? C'est extraordinaire. C'est le cardinal Cisneros. C'est un franciscain, ce cardinal. C'est, on l'appelle le monarque aux pieds nus. Un cardinal aux pieds nus. Un cardinal à l'esprit franciscain, malgré tout. Il rouvre le dossier, puis il déclare que les Indiens sont certes libres. Ils rentrent de leur côté, quoi. Alors, il charge Las Casas de lui proposer des remèdes à la situation. Puis il le nomme procureur et protecteur universel de tous les Amérindiens. De retour en Amérique, Las Casas ne peut mettre en place ses projets car l'opposition est trop forte. Malgré les ordres du régent, le cardinal Cisneros, franciscain, il décide alors de se consacrer à l'étude et de se mettre au service de la parole prophétique. Si on avait une parole prophétique au Québec, on changerait l'Église. Parce que cette parole prophétique qui dénonce les péchés de la conquête annonce aussi la conversion à l'Évangile. Et pour cela, il entre dans l'ordre des prêcheurs, imaginez. Il fera profession en 1523 et deviendra donc à 38-39 ans un vrai dominicain. Et durant les 43 ans qui lui restent à vivre, Bartholomé de Las Casas écrit œuvre sur œuvre, traité sur traité, c'est extraordinaire tout ce qu'il fait pour défendre les droits des Indiens à la liberté et à leur propre gouvernement. En plusieurs territoires d'Amérique, il va commencer à établir des villages d'Indiens, vous savez. Pas des réserves dans le sens où on l'entend nécessairement. Non, non, des vrais villages où on travaille, un peu comme les Jésuites ont fait. Hein. Plus tard, ce dont je vous ai déjà parlé un jour. Parce qu'il veut instaurer, si possible, une nouvelle république indienne, c'est ce qu'il dit. Et cette organisation préfigure... Évidemment, l'action des Jésuites là, dans leur réduction au Paraguay, 150 ans plus tôt. Je vous en avais parlé, j'ai fait de la recherche le 17 septembre 1997, il y a moins de 2 ans donc. Avec des textes très intéressants du père Paul Hamel, jésuite décédé depuis. Après avoir été donc évêque du Chiapas, au sud du Mexique, comme Mgr Ruiz aujourd'hui, il se retire à Madrid. Il est resté évêque 6 ans, je crois. Il continue à lutter sans arrêt. Il prêche jusqu'à sa mort. Il a pas la langue dans sa poche, même à 81 ans. Il est incroyable. Il est très déçu par les altermoiements du roi puis les ambiguïtés de ses conseillers de la cour d'Espagne. Alors, il décide de recourir directement au pape. On le lui reprochera, évidemment. Mais ça lui importe pas du tout. Il a 81, 82 ans. Qu'est-ce que ça lui fait? C'est intéressant d'être vieux. On peut dire ce qu'on pense. Plus facilement que quand on a 25, 30 ans puis qu'on a une pseudo-carrière devant soi. Alors, ça fait un demi-siècle qu'il est sur la brèche, ce Bartholomé de Las Casas, ce grand dominicain, cet évêque. Et ses doigts fatigués ne lui obéissent plus. Alors, il dicte donc une lettre adressée au pape Pie V, le fameux Saint Pie V, qu'il ordonne de mettre fin aux guerres contre les Indiens, qu'il condamne le pillage des Amériques. Le ton montre, il devient, malheureusement, un peu colérique. Il s'indigne. Une bonne violence espagnole, quoi. Le sang lui monte à la tête et sa voix s'enroue, même. Mais finalement, il s'écroule à Madrid. Le grand défenseur des Indiens est mort à la tâche en 1566. Oui, à 82 ans. Mais il faut pas oublier que il nous a laissé des choses remarquables. Je vous recommande très fortement de vous procurer le livre de Bartholomé de Las Casas. C'est un de ses ouvrages écrits dans les années 1520, pas longtemps après être devenu dominicain. De l'unique manière d'évangéliser le monde entier, je répète, de l'unique manière d'évangéliser le monde entier. C'est par Bartholomé de Las Casas aux éditions du Cerf. C'est paru en 1990. C'est pas très long. C'est passionnant. Ça se lit. Ça a même pas 150 pages. Mais c'est écrit. C'est bouleversant. On dirait du Saint-Paul. Aux éditions du Cerf. De l'unique manière d'évangéliser le monde entier, de Bartholomé de Las Casas. Il écrit, il n'est personne qui abandonne volontiers de bon cœur le Dieu que depuis des années il estime pour véritable. Les croyances qu'on lui a enseignées dès sa naissance et tout ce que ses ancêtres ont vénéré, c'est qu'il veut que l'on respecte la foi des Amérindiens pour les amener petit à petit progressivement, sans défaillir quand même, à la foi au Christ, à l'amour, à la foi en l'Évangile. Et nombreux sont les religieux et les religieuses, les membres du tiers-ordre, les hommes et les femmes des fraternités de la grande famille dominicaine qui ont marqué l'histoire de l'Église et des pays de l'Amérique latine au cours de presque 5 siècles de présence, de travail, de prière et d'engagement. Il faut pas oublier ça. Il y a des noms qui sont très connus comme Saint-Martin de Porres, Sainte-Rose de Lima, les saints dont je vous ai déjà parlé. Il y a eu aussi à l'époque de Las Casas, Domingo Cabrera Lartón, qui établit patiemment les droits à la terre de centaines de communautés paysannes. Il leur a évité d'être dépouillés par les grands propriétaires, mais malheureusement, ça s'est fait avec le temps. Car ces grands propriétaires en Amérique du Sud, c'est une horreur. On invoque parfois Saint Jean Macias, un frère coopérateur, comme on disait frère coadjuteur autrefois, contemporain de Saint Martin de Porres, ou bien Sœur Anne des Anges Monteagudo, qui est une moniale, qui a été canonisée par Jean-Paul II, oh mon Dieu, il y a même pas 15 ans, en 85. Mais le nom de beaucoup d'autres n'a pas franchi les frontières de l'Amérique du Sud. Ces gens-là, ces héros, ces saints constituent la foule des évangélisateurs du Nouveau Monde qui ont mis en pratique les recommandations de Bartholomé de Las Casas lorsqu'il écrivait dans son Histoire des Indes à 73 ans. Il paraît que Hernán Cortés, vous vous souvenez de Cortés, hein? Il paraît que Hernán Cortés décida de faire disparaître les idoles de ce peuple et d'ériger des croix dans ces îles. C'est là une erreur, un de ces non-sens que beaucoup ont commis en ces contrées. Car, ajoute Bartholomé de Las Casas, dominicain évêque, car si l'on n'a pas d'abord, pendant un temps, un grand laps de temps, enseigné la doctrine chrétienne aux Indiens, c'est une grande absurdité que de prétendre leur faire oublier leur divinité. Jamais, jamais, ils ne le font de bon gré. Car il n'y a personne, comme j'ai dit tout à l'heure, qui abandonne volontiers de bon cœur le Dieu que depuis des années il estime pour véritable. Les croyances qu'on lui a enseignées dès sa naissance et tout ce que ses ancêtres ont vénéré, on peut pas le leur faire oublier comme ça. Il faut auparavant avoir compris que celui qu'on vous propose à la place de vos dieux est le Dieu véritable. Il ajoute, c'est dans sa façon d'évangéliser, c'est tout ça où on peut retrouver ça là aussi. Il ajoute, mais vraiment, quel enseignement chrétien les Espagnols pouvaient-ils apporter aux gens pendant les 2, 3 ou à peine 10 jours qu'ils séjournaient parmi eux? Il est évident qu'ils ne purent leur parler du vrai Dieu de manière à leur faire perdre la confiance qu'ils avaient placée en leur Dieu, au pluriel, et que dès qu'ils s'en furent allés, ces gens ont repris leur croyance. Et j'aime bien ce qu'il dit, mais dont notre synode pourrait profiter ici à Montréal, nos synodes diocésains. Il dit, il faut enseigner journellement, tous les jours, quoi, avec diligence et persévérance. Il ajoute, j'aime bien ça, il faut imprimer dans leur cœur le visage du vrai Dieu. Il faut imprimer dans leur cœur, le visage du vrai Dieu. Ensuite, ajoute-t-il, d'eux-mêmes, ils reconnaîtront leur erreur. Et ils élimineront librement les idoles qu'ils vénéraient autrefois. C'est dire que pour empêcher que notre population vénère toutes ces idoles insensées, il faudrait imprimer dans le cœur des Québécois le visage du vrai Dieu. Il ajoute ériger des croix et inviter les Indiens à leur donner des marques de respect est une bonne chose, à condition qu'on leur ait bien fait comprendre la signification de ce geste. Est-ce que les gens savent tout l'amour qui jaillit du cœur du Christ en croix? Est-ce qu'on comprend ça? Il ajoute, mais si l'on ne dispose pas du temps nécessaire et si l'on ne pratique pas leur langue, c'est une chose inutile et superflue. Car les Indiens peuvent s'imaginer qu'on leur propose là une nouvelle idole qui figure le Dieu des chrétiens. On leur a ainsi incité à adorer un morceau de bois comme un dieu, ce qui est une idolâtrie. Pour ça, j'ai en horreur quand on parle de l'adoration de la croix durant la Semaine Sainte. Quel terme! C'est la vénération de la croix. Il n'y a pas question d'adoration. Qu'on enlève donc ce mot qui gêne toute une jeunesse qui... tout le monde, de toute façon. Je comprends que c'est une vieille tradition, mais qu'on transforme les choses, qu'on ne se gêne pas pour adapter la conduite la plus sûre, dit Bartholomé de Las Casas, toujours un évêque. La seule règle qu'il convienne à des chrétiens d'observer quand ils se trouvent sur les territoires païens, c'est de donner le bon exemple par une vie vertueuse, en sorte que selon les paroles du Seigneur Jésus, voyant vos œuvres, ils louent et glorifient le Père, et qu'ils estiment qu'un Dieu qui a de tels adeptes ne peut être que bon et véritable. Oh, il a écrit aussi des choses terrifiantes. Dans sa relation abrégée de la destruction des Indes par les Espagnols, remède aux maux causés dans les Indes. Mais on frémit quand on lit ça. Je vous l'avais lu il y a 2 ans. Mais je vous en lis une partie. En entrant dans les villes, les Espagnols immolaient à leur rage femmes, enfants, vieillards, tuant à coups de lance et d'épée ceux qui travaillaient paisiblement dans la campagne. Ils réservaient pour les gens de condition élevée, le supplice du feu comme le plus honorable. J'ai vu étendre sur des grilles et brûler lentement 5 caciques et d'autres seigneurs. Le capitaine espagnol, indigné de ce que leurs cris troublaient son sommeil, ordonna qu'ils fussent étranglés pour ne plus les entendre. Il n'était pas gêné, ce Bartholomé de Las Casas. Le texte est presque interminable. C'est terrifiant, je n'ose le lire. Épouvantable. C'est à cette époque qu'il y a aussi la fameuse Notre-Dame des Amériques. Oui. La Vierge de la Guadeloupe. La dévotion des Amérindiens l'entourait de soins. Elle est apparue à un Amérindien, n'est-ce pas? Juan Diego. Misérable Amérindien, très simple, au cœur pur. Et il a reçu en langue nahuatl ce simple petit message. « Je suis la mère de ton Dieu. » Et son évêque, Zumarraga, a douté. Mais lui, protecteur officiel des Indiens, comme l'en a chargé expressément le roi d'Espagne, sa majesté le roi d'Espagne, il est aussi le détenteur du sceau avec lequel, rougi au feu, on marque au front des Indiens le nom du propriétaire à qui ils sont remis, effrayant. C'est lui qui a jeté cet évêque au bûcher tous les parchemins des Aztèques et des écorces peintes si délicatement qu'on y discernait bien la main du diable, disait-il. C'est lui qui a mis à bas 500 temples et brisé 20 000 idoles. Mais il sait bien, cet évêque, Zumarraga, qu'il a quand même bon cœur. Étrange dualité, que sur cette colline de Tepeyac était, puisqu'il y a peu, le sanctuaire de Tonatzin, la déesse de la terre, qui attirait inlassablement tous les Indiens pour rendre hommage à cette statue vêtue de serpents, ornée de cœurs humains, abominables, qu'ils avaient l'audace d'appeler notre mère. Mais c'est là qu'on établit ce sanctuaire de la Vierge de Notre-Dame de la Guadeloupe. Le sein de la Vierge Marie a lui aussi été ouvert pour nous donner le plus beau fruit. Le Christ, parole de vie. Et c'est ce que des missionnaires ont tant fait pour répandre cette foi vivante. Beaucoup d'images publiées dans les revues à grand tirage de nos jours, des albums de photographies présentent la vie des quartiers pauvres des villes ou des villages d'Amérique latine. Elles montrent un peuple écrasé et misérable. Ils ont l'air dévots, en tous les cas. Ils sont friands de manifestations religieuses. Ils sont pas toujours très, très catholiques. Il y a même des manifestations de leurs anciennes religions. Ils en ont fait devant le pape. Et c'était assez beau, dans des costumes flamboyants. Bien évidemment, on trouve des quantités de rites à saveur plutôt folklorique sur les côtes du Pacifique, en cordillère des Andes, ou même au cœur des grandes plaines qui viennent mourir là, sur les rives de l'Atlantique. Mais nos appareils photographiques ne font que prolonger l'œil de celui qui croit tout savoir et qui juge l'extérieur. Faut faire attention. Ceux qui vivent parmi ces gens-là et qui travaillent à leur côté, qui prient avec eux, eux y découvrent. Ce que le visiteur a bien du mal à déceler, qu'est-ce qu'il découvre? Un peuple. C'est un peuple qui s'organise, qui construit l'avenir. C'est un peuple opprimé, certes, mais c'est un peuple de croyants qui est héritier de Bartolomé de Las Casas. Le continent américain, on peut dire, concentre aujourd'hui la plus grande partie des chrétiens du monde. Est-ce qu'on y pense? Oh, c'est sûr, beaucoup ne sont pas chrétiens, seulement de nom. Il y a de vrais là-bas. Oh, comme sur d'autres latitudes, dans d'autres pays, comme ici d'ailleurs. J'entendais hier une femme, Louise Boisvert, qui parlait de sa foi et d'un pèlerinage qu'elle organise pour les 15-30 ans. Extraordinaire de foi. Le don du bien d'entendre ça à Radio Ville-Marie, hein? Il y a de belles émissions. C'était à 8h30 hier soir. En somme, dans toutes les régions du continent, aussi bien dans les immenses bidonvilles que dans les villages les plus reculés en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il y a des mouvements pour la défense de la vie et de la dignité humaine, très souvent animés par des membres de ce qu'on a coutume d'appeler les communautés ecclésiales de base, hein, des communautés de base fantastiques. En somme, ce qu'ils veulent, c'est être peuple actif et vivant, et être église agissante avec le Christ vivant. Et ça va presque toujours ensemble chez eux. En parcourant toutes sortes de feuillets, des déclarations, des cahiers de notes qui circulent dans les quartiers des bidonvilles ou dans les communautés paysannes là-bas, on ne peut qu'admirer la vitalité de ces groupes et de ces chrétiens. Je leur laisse la parole avant d'entendre un peu de musique. Écoutez bien ça. Notre passé, disent-ils, le présent, mais ce que nous désirons pour le futur, nous enseigne que nous devenons vraiment un peuple quand nous nous sommes organisés pour récupérer les terres que les grands propriétaires nous avaient enlevées et les faire produire plus et mieux. C'est aussi quand nous améliorons notre bétail, nos routes et nos chemins, nos écoles, notre alimentation et notre santé. Et encore quand nous mettons en marche les popotes communales et les soupes populaires pour pouvoir manger tous en mettant en commun et travaillant la cuisine à tour de rôle, pour diminuer les effets catastrophiques de la politique économique de notre gouvernement, qui favorise toujours ceux qui ont déjà et qui affament les pauvres de la ville et de la campagne. Oui, nous sommes Église, pas seulement parce que on nous a baptisés, mais parce que, comme de vrais, vrais chrétiens, nous vivons dans l'union et la solidarité avec foi, pour trouver, avec l'effort de tous, des solutions aux problèmes qui nous font souffrir. Nous sommes Église aussi quand nous comprenons que nous aidons ceux qui vivent les mêmes problèmes que nous, ou pire encore. Oui, Jésus nous rappelle toujours que ce que nous avons fait à un frère qui a un besoin, c'est à lui que nous l'avons fait. Nous devenons mieux un vrai peuple quand nous travaillons toutes les femmes ensemble pour cultiver les légumes et élever les animaux que nous servirons pour préparer à manger à nos maris et à nos enfants à la cuisine communautaire. Comme cela, nous n'avons pas à dépendre des aides des autres et aussi, quand nous faisons bien marcher les dispensaires du quartier en apportant nos médicaments ou qu'on s'organise pour faire une épicerie coopérative, et encore plus, quand nous nous organisons pour commercialiser ce que nous produisons pour ne pas nous faire voler sur le poids ou le prix. Nous savons que nous sommes Église parce que nous célébrons ensemble notre foi catholique et notre espérance en Jésus-Christ. Nous essayons de comprendre sa parole dans l'Évangile pour qu'elle oriente notre vie dans la famille et avec les voisins et les compagnons de travail. Nous ne voulons pas accepter la loi du plus fort qui mélange toujours ce qui est légal et ce qui ne l'est pas, ou le moral et l'immoral, parce que cela lui sert à dominer les autres. Voilà des chrétiens debout, héritiers de Las Casas. Bartholomé de Las Casas, on s'est posé bien des questions à son sujet, à savoir s'il s'est montré trop intransigeant, parce qu'il était assez intransigeant. Ceux qui ont une bibliothèque à leur disposition, une bibliothèque religieuse, dans le supplément, cette revue d'éthique et théologie morale, qui est en fait le supplément à la vie spirituelle autrefois, là, dans un numéro, c'est aux éditions du CERF, dans le numéro de mars 87, numéro 160, il y a un très beau dossier sur Las Casas, puis le droit des gens dans l'âge moderne, etc. C'est passionnant, c'est les pages et les pages et les pages. Il y a un bel article de Marianne Manlotte du CNRS à Paris, qui est une grande spécialiste de Las Casas. Elle a écrit un très bel article. Elle pose la question à un moment donné, Las Casas s'est-il montré trop intransigeant? Ceux qui ne l'aimaient pas disaient que sa conduite avait été empreinte de passion. Et elle ajoute, pose cette question intelligente, mais qui oserait s'indigner d'une passion qui est celle même de l'Évangile? C'est que, quand j'entends le cri de ces gens aujourd'hui qui nous disent, dans leur foi chrétienne, nous sommes peuple aussi, quand nous savons réclamer nos droits, et quand nous nous unissons pour réclamer l'installation d'un service de santé ou l'eau potable, ou quand nous exigeons qu'on nous permette de brancher une ampoule électrique sur la ligne qui passe dans notre rue, mais qui amène la lumière dans les quartiers des riches. Nous aussi, nous sommes des êtres humains. Vraiment, nous sommes Église quand nous ne perdons pas l'espérance. Et que même dans les moments si difficiles, avec la police ou les terroristes, nous continuons à être unis pour préparer l'avenir de nos enfants. Écoutez bien ça, parce que Dieu nous a donné la vie pour que nous aidions les autres à vivre. Dieu nous a donné la vie pour que nous aidions les autres à vivre. En 90, les délégués des communautés chrétiennes des villages paysans et quartiers populaires des diocèses du sud du Pérou ont rédigé un beau credo que je vous lis en terminant. C'est le credo de la région Andes Sud. Oh, ça remplace peut-être pas le credo officiel de l'Église, mais c'est très beau. Nous croyons au Dieu de la vie, qui est Père et Amour. Parce qu'il nous donne force et espérance, et en nos frères qui sont porteurs de vie. S'il y a des gens qui engendrent la misère et ne peuvent que détruire, bien plus nombreux sont ceux qui construisent et donnent vie, avec la force qui leur vient de leur foi en Dieu et de leur amour du prochain. Nous croyons en notre Seigneur Jésus-Christ, dont l'image est imprimée sur le visage des opprimés et de ceux qui souffrent, et en tous ceux qui clament justice. C'est pourquoi nous croyons en la force des faibles, puisque le crucifié est ressuscité. Il nous sauve, il nous guide, il nous rend forts. Nous croyons en l'Esprit de Dieu, présent dans la nature et en nous-mêmes. Il nous donne du souffle. Il nous pousse à aller de l'avant malgré la violence qui s'abat sur nous et toutes les difficultés qui nous font trébucher. Et il nous fait croire qu'il est possible de rêver et qu'il y a des raisons de continuer à vivre. Nous croyons dans les organisations démocratiques qui restent solidement unies, qui ne perdent pas la foi devant les difficultés, parce qu'avec leur force et leur travail, elles peuvent obtenir un changement dans notre société et reconstruire notre pays libre et souverain. Nous croyons en les femmes et en leurs capacités. Nous croyons en nos jeunes parce qu'ils sont une semence nouvelle. Nous croyons en tous ceux qui ont le cœur droit. Nous croyons en l'Église catholique, peuple de Dieu, fidèle à Jésus-Christ. Elle nous aide à nous organiser. Elle nous pousse à nous aider les uns les autres. Elle nous accompagne sur notre chemin si difficile. Elle nous veut hommes et femmes nouveaux pour semer et façonner une nouvelle histoire. Et ça se termine très sobrement. Nous croyons en notre peuple. C'est Paul VI qui a demandé aux évêques d'Amérique latine de travailler à l'aggiornamento de l'Église dans ce continent, qui est considéré comme catholique, mais où le catholicisme souffre d'un état de faiblesse organique, on le sait, comme le nôtre, comme notre Église ici. Il nous faudra pour cela un plan d'ensemble, dit-il, pour une pastorale de type missionnaire. C'est ce qu'il nous faut ici. Alors organiser les évêques, les prêtres, les laïcs. En 68, à Medellin, 22 pays d'Amérique latine qui ont répondu à cet appel. On avait besoin d'une nouvelle Pentecôte, cette fête admirable que nous célébrons ces jours-ci, pour que l'Évangile renouvelle les hommes au plus profond de leur cœur et la société au plus profond de ses structures. Ils n'ont pas craint de s'engager au service des besoins fondamentaux de leur peuple, puisqu'ils ont proclamé « L'Amérique latine se trouve en de nombreux endroits dans une situation d'injustice qu'on peut appeler de violence institutionnalisée. Cette situation appelle des transformations globales, audacieuses, urgentes et profondément rénovatrices, et on ne peut donc s'étonner que naisse en Amérique latine la tentation de la violence. Comme toute libération est déjà une anticipation de la libération plénière du Christ, eh bien l'Église, ont-ils déclaré en Amérique latine, se veut solidaire de tout effort d'éducation tendant à libérer nos peuples. Il faut bien travailler à libérer les peuples de leur misère intellectuelle, morale, spirituelle. De même que certains, au nom de leur foi, avaient pris la défense des Indiens et des Noirs contre les crimes et les erreurs des baptisés blancs, de même, il faut aujourd'hui rendre possible la plénitude humaine pour tous les latino-américains. Puisque, comme l'écrivait saint Paul aux chrétiens de Galates, les Galates, le Christ nous a libérés pour que nous restions libres. C'est la libération au nom de l'Évangile, mais cette libération, c'est une libération à la fois économique, sociale, humaine et intérieure, où le péché devient absent. Et les vertus de foi, de charité et d'espérance s'épanouissent. Et l'adoration s'accomplit par la réception des sacrements et la sainte vénération de la Trinité.